Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Sans plus attendre, notre billet.
Nature Urbaine, le billet vert.
Alors le billet vert, ou plutôt la page blanche, oui, je vous ai fait le coup de la panne. Enfin, le coup de la panne qui, en d'autres termes, Verdi, sera plutôt rebaptisé « J'ai plus de batterie ». Et si vous avez bien suivi la dernière émission, il s'agit plus précisément d'un déficit d'énergie renouvelable et réutilisable à un instant T dans le cadre d'un réseau d'énergie dont on veillera à ce que la source soit faiblement émettrice en CO2 et préserve, évidemment, c'est le thème de cette émission, les ressources naturelles. Alors je vous laisse le soin de réécouter Benoît Ricard dans le podcast du précédent numéro de cette même édition. Alors j'ai scrollé. Néologisme sans équivalent qui désigne le fait de parcourir compulsivement, surtout en ce moment, de bas en haut, l'écran qui est greffé à nos mains. En particulier, il y a une appli addictive, comme l'était Bilto pour le turfeur, le cadran pour l'acheteur ou l'écran du boursicoteur, c'est Google Actu. Les réjouissances ne manquent pas au moment d'écrire ces lignes. Mais non, je ne voulais pas vous parler de la folie, d'un prof massacré, d'une laïcité piétinée, car tout le monde, oui, tout le monde en pâtit. Plutôt que de développer sur l'obscurantisme ce qui revient à lui donner du crédit, j'ai choisi, et ce sera bientôt de saison, les paroles d'un auteur et chanteur lyonnais, tout comme notre invité du jour, fredonné par Henri Salvador. « Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. » Je ne voudrais pas non plus m'attarder sur la belle entente internationale, car ce serait faire la promo de destinations rendues plus ou moins idylliques, avec leurs embûches qui volent en escadrille. Explosions, autocrates, élections incertaines, menaces diplomatiques. De toute façon, le tourisme international est au ralenti. Retrouvons donc Henri. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts, où ça ? Dans mon jardin d'hiver. Je ne parlerai pas non plus de ces stades vides dans lesquels résonne l'écho de doux noms d'oiseaux. D'oiseaux, certes, mais uniquement proférés par les protagonistes en short. Car comme le disait si bien Monty, et ça n'est pas un Stéphanois qui va vous contredire, qui c'est les plus forts, évidemment ? C'est les verts, et pourquoi ? On a un bon public et les meilleurs supporters. Les supporters ne sont plus là, les cris non plus, alors n'en parlons plus. Et puis quoi déjà ? Ah oui, coronavirus ! Connard de virus ! Cette chanson estivale de Renaud peut sembler triviale. Les mauvaises langues diront qu'il y a là à voir avec le nom de famille de notre intervenant de la dernière émission, que nous avons cité plus haut, Benoît. Mais ce refrain est un exutoire efficace. Avouez, avouez que vous avez déjà émis un gros mot au volant. Et ne me dites pas que c'est la faute des coronapistes. Cela date de bien avant. Et bien là, vis-à-vis du virus, c'est pareil. Alors rien parmi ces bonnes ondes, au moment où nous enregistrons cette émission, ne m'a provoqué de déclic. Trop d'émotions, trop de lassitude. Je me console, car effectivement, je débute. Je me dis que même Jean-Michel a dû la connaître, cette apathie. Bref, peut-être qu'à force d'éviter d'expirer, j'ai du mal à respirer. Heureusement qu'il y a les plantes, car la photosynthèse, c'est l'inverse. Au lieu de nous pomper l'air, elle capte le CO2 et libère l'oxygène dans l'atmosphère, même à la maison, même au bureau où nous sommes assignés. Peut-être qu'à force de se retenir du postillon, aussi, on a du mal avec les points de vue. Sauf le magazine du même nom qui, le point, n'a pas changé sa rubrique de fin. Peut-être qu'avec une économie au ralenti, le billet vert a du mal à prospérer. Ça n'est plus à prouver. Alors pourquoi ne pas terminer en chanson ce billet complètement décousu, j'en conviens. Un peu de légèreté, l'air de rien. Cet été, c'était comme avec Dalida. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les lendemains avaient un goût de miel. Suivit un pas le septembre, comme il est loin, le temps du ciel sans cendre, comme le déclame Camille. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie, on fredonne de vieilles mélodies avec Tété. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, soufflées avec du matériel électrique, car les souvenirs et les regrets sont aussi bas carbone, écologiques. La conclusion revient évidemment à Annie Cordy, dont le personnage est en soi une incitation au voyage immobile. Tata yo-yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Tata yo-yo, on me dit qu'il y a même un grelot, mais moi j'aime ça quand ça fait ding 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 ding, comme une samba. Et elle a aussi chanté un air de Sidney Bechet, aux paroles si bien trouvées. Car si nous sommes confinés, si nous ne pouvons plus vraiment mettre le nez dehors, j'ai caché, mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors plantez donc des arbres. Et si ce n'est pas possible dès maintenant, faites germer vos projets. Et toujours, pensez et offrez des fleurs.
Nature urbaine, l'interview, première partie.
Alors aujourd'hui, nous allons faire une intro à la Ruquier. Non, nous ne recevons pas Benjamin Biolay, mais un Savoyard, lyonnais d'adoption, voilà, qui a longtemps été alsacien. L'entretien sera encore dense, aussi parce que nous allons parler de densité. Il sera question de paysage, de respiration, de service également. Nous avons rendez-vous avec un paysagiste, pas comme les autres. Bonjour Jean-Marc Bouillon.
Bonjour Pierre.
Jean-Marc, vous êtes paysagiste concepteur. Alors ce que d'aucuns dénommaient jadis architecte paysagiste, et vous nous expliquerez peut-être la raison de cette nouvelle appellation. Vous avez un riche parcours dans les villes fertiles, nous y reviendrons. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que fondateur et dirigeant de Takae Conseil et président d'un fonds de dotation qui s'appelle Intelligence Nature. L'un de vos dadas, référence à Bilto de notre édito, que nous allons développer, ce sont les infrastructures vertes. Alors, avant de détailler ce dont il s'agit, vous dites régulièrement que les villes sont malades. Malades d'une vision techniciste, malades d'infrastructures que vous qualifiez d'obsolètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quels sont les risques encourus si on ne fait rien ?
Oui, alors tout à fait. Donc en fait, il faut remonter à la fin du 19e siècle, à l'époque où les principales innovations techniques arrivent. C'est là qu'on découvre la voiture, l'aéronef, la machine-outil, le taylorisme, la révolution industrielle, etc. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a, avec un peu de prétention sûrement, pensé que à toute question, même naturelle, on pouvait trouver une réponse technique ou technologique. Et donc, on a bâti un système urbain à grands coups d'infrastructures techniques, grises, monoservicielles, et qui, progressivement, a substitué au socle naturel des villes un socle artificiel. Alors, c'était sans compter sur une loi qui s'appelle la loi sur l'institutionnalisation de Ivan Illich, qui dit que quand on prend un système et qu'on l'institutionnalise, il génère sa propre perte, jusqu'à dysfonctionner au point de desservir la cause pour laquelle il avait été imaginé. Et donc, on arrive aujourd'hui à ce moment de nos villes où l'ensemble des systèmes, la plupart des systèmes qu'on a mis au point se mettent à dysfonctionner. Et voilà, c'est pour ça que un changement de regard semble nécessaire. Carlos Moreno, qui est quand même un champion de la gestion des systèmes complexes, dit que c'est le risque qu'on encourt à continuer à fonder notre développement sur un système qui s'avère incapable de répondre aux changements climatiques va être plus dangereux que les changements climatiques eux-mêmes.
Voilà. Alors, ces infrastructures, c'est des tuyaux, du béton, du bitume. C'est quoi ces infrastructures grises pour
alors,
les nommer
alors, y en a, elles sont multiples. Ça peut être l'infrastructure routière, c'est donc tout le système vier, tout le système des voiries, c'est l'infrastructure d'assainissement, tous les tuyaux qu'on enterre le plus profondément dans le sol. C'est les systèmes ou les infrastructures de mobilité de transport, c'est l'ensemble. Et on voit bien, par exemple, quand on regarde nos villes, tous les matins et tous les soirs, aux heures des trafics pendulaires, le système routier est complètement saturé. Et vous voyez que c'est ça. La loi de Illich, c'est de dire qu'on a créé des voiries pour permettre aux voitures de rouler et leur surutilisation rend les voitures immobiles. On a créé un système d'assainissement des voiries pour limiter la pollution, etc. Et aujourd'hui, dès qu'il pleut, le système d'assainissement déborde et pollue ou dégrade. Voilà. Et c'est ça le problème de cette collection d'infrastructures grises monoservicielles.
Alors, le tableau est dressé. Vous nous dites que c'est assez grave. Quel levier est-ce qu'on peut actionner ? On revient à la calèche pour se déplacer dans la ville ?
Non, pas du tout. Alors, bon, si on parle de déplacement, il va y avoir un levier qui va nous offrir des opportunités très intéressantes, c'est le repli de la voiture. On sent que la mobilité va changer de ce côté-là. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que tous nos élus annoncent, par exemple, la suppression de 65 000 places de stationnement aérien. Voilà. Alors, donc, non, plutôt ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce système urbain, très technique, fait de collection d'infrastructures grises, il y a deux grands absents, c'est l'eau et le végétal.
Et l'eau
est considérée comme l'ennemi de la construction et le végétal un accessoire. C'est assez curieux parce que partout sur Terre, ensemble, l'eau et le végétal, créent les écosystèmes propices à l'installation humaine. Prenez le désert, par exemple. Pas d'eau, pas de végétaux, personne. Une petite cuvette, l'eau s'accumule, les végétaux poussent, ça donne une oasis et les gens s'installent. Et on voit arriver un urbanisme bioclimatique qui vient à la fois chercher l'eau et se protéger du végétal. Et ce qui n'est pas du tout le cas de notre système urbain aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un levier qui existe? Quand on entend, par exemple, Frédéric Ségur du Grand Lyon parler des solutions pour préparer nos villes à résister aux événements climatiques, il en cite deux, l'eau et le végétal. Mmh.
Voilà. Et donc, cette eau et ce végétal, quel service, qu'est-ce qu'ils apportent à cette ville congestionnée à mains égards, comme vous l'avez indiqué?
Alors, donc, ils vont apporter des réponses probantes, intelligentes, efficaces, pérennes aux quatre principaux maux que le système urbain génère. Un, la température et les îlots de chaleur, donc les arbres vont rafraîchir. Deux, par l'infiltration, limiter le débordement, les inondations de nos villes. Trois, par le filtre, ils vont dépolluer l'atmosphère. Et quatre, par leur présence, ils vont diminuer le bruit. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans cette future infrastructure verte qui nous tend les bras, c'est qu'à l'inverse des autres, elle est multiservicielle. Mmh. Un tuyau d'assainissement ne fait qu'assainir, un tuyau d'adduction d'eau ne fait qu'amener l'eau. La nature, elle peut lutter contre la chaleur, lutter contre les inondations, lutter contre le bruit, lutter contre la pollution, par exemple.
Alors ça, c'est extraordinaire. On perçoit bien ces services que certains appellent des services écosystémiques, des services rendus par la nature en ville. Mais dans une ville qui surchauffe, par exemple, comment est-ce qu'on assure la fonctionnalité du végétal? On sait qu'un arbre se bloque s'il fait trop chaud, la photosynthèse s'arrête, et donc la transpiration, l'évapotranspiration diminue, voire s'arrête complètement. Et puis dans une ville sèche, puisqu'on a quand même des canicules, mais surtout des sécheresses, et également plutôt des sécheresses répétées, comment est-ce qu'on arrose cette nature si désirée? Elle ne vit peut-être pas d'amour, mais quoique son entretien, c'est aussi une forme d'amour, celui des jardiniers, très important. Mais certainement, elle vit d'eau fraîche. Comment on fait?
Oui, alors, c'est... D'abord, il faut s'intéresser à la notion d'infrastructure verte. C'est des mots qui ne sont pas faciles à mettre ensemble, parce qu'infrastructure renvoie à quelque chose de technique et vert, quelque chose de naturel. Et en fait, la définition d'infrastructure, c'est une collection d'éléments qui, mis ensemble, produisent un service. Mmh. Hein. Et donc, l'infrastructure verte, c'est quoi pour nous? C'est, par exemple, l'addition de tous les morceaux de nature, domaine public comme domaine privé, présents en ville, dont on est capable de déterminer le service qu'il rend. D'accord? Bon, alors, donc on sent bien, et d'ailleurs la population le sait intuitivement depuis bien longtemps, parce que chaque fois qu'on fait des sondages, on voit que 90% des urbains dans le monde rêvent d'une ville demain plus verte qu'hier, etc. Donc il faut beaucoup planter, beaucoup végétaliser. On a vu 100 000 arbres ici, 200 000 là, etc. Mais pour arriver à planter, il faut absolument garantir la pérennité de ce qu'on plante, et là, l'eau va de nouveau s'associer au végétal. Donc la façon de faire, c'est de mêler dans des trajectoires communes les deux éléments qui étaient finalement bannis du système urbain du XXe siècle. Donc il faut arrêter, par exemple, très concrètement, de collecter l'eau, de l'amener dans des petites grilles à valoir par des caniveaux à toute vitesse, la faire disparaître dans des petits tuyaux qui vont aller se verser dans des grands tuyaux, le tout vers des stations d'épuration. Et au contraire, il faut faire ruisseler l'eau en surface, lentement, l'infiltrer le plus près de l'endroit où elle tombe, dans des espaces verts qu'on va arrêter de mettre en butte, parce que toutes les buttes sèchent sur terre. Et on va mettre des espaces verts en creux par lesquels l'eau va s'engouffrer quelque part et créer les conditions de sol pérennes pour qu'une végétation propice s'installe dans nos villes. Et à ce moment-là, grâce à cette qualité de sol, grâce à ces quantités d'eau retrouvées dans le sous-sol, les arbres pourront délivrer les prestations qu'on attend d'eux, l'évapotranspiration, etc., etc. Mais ça ne suffira pas, parce qu'on va avoir des pics caniculaires de plus en plus longs. On va avoir, on pense en 2030, 2050, des pics caniculaires de 15 jours, etc. Donc il faudra développer des nouvelles techniques d'arrosage automatique, beaucoup plus fine que celle d'aujourd'hui, notamment par des sondes tensiométriques qu'on va mettre dans le sol, avec de la data qui va permettre de faire de la prédiction, de l'arrosage prédictif.
Alors, nos auditrices et nos auditeurs, qui sont des généralistes, j'ai envie de dire, de la ville et de l'immobilier, pour reformuler, l'un des mots qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est débitumer Les Anglais, les Anglo-Saxons parlent de depavement. Il y avait un article il y a quelque temps sur la ville de Caen qui vient de libérer, de débitumer ses pieds d'arbres. Donc ce que vous nous dites, c'est que au-delà du duo végétal eau, c'est à minima un trio végétal eau et sol.
Mais bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et que ce sol, donc, plutôt que de faire des buttes, on voit bien là, tout le monde comprend, on fait plutôt des creux. C'est les fameuses fosses de plantation avec la ça y est, le nom m'échappe, c'est incroyable. Les cuvettes, voilà. D'arrosage qui sont à utiliser dans vos jardins et qui sont préconisées par tous les bons pépiniéristes. Et aussi donc des fossés filtrants. On parle de nous, c'est
de
ça,
nous,
ça peut
oui.
être ça.
Des jardins creux, des jardins de pluie.
D'accord.
Enfin, on va changer un petit peu l'écriture urbaine parce que vous imaginez que aujourd'hui tout est fait pour contrôler l'eau et donc on a toute une écriture de l'espace public qui est liée à cette question-là. C'est quoi ? Voirie en pente, bombée, qui amène l'eau vers des caniveaux. Mmh. Et pour que l'eau ne dépasse pas le caniveau, on met une bordure. Et derrière la bordure, on met les plantes en butte.
Mmh. D'accord ? Chasser cette eau que je ne saurais voir.
Chasser cette eau que je ne saurais voir. Donc l'écriture qui va apparaître va être une écriture beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide, de pentes toutes douces qui vont sans bordure, sans caniveau, sans grille à valoir, aller vers des espaces verts qui seront mis légèrement en creux. Alors quand on parle d'une écriture douce, comme celle-là, on imagine bien libérer tout ça, un peu la légèreté que ça va donner, mais on se dit aussi que c'est extrêmement économe. Donc il y a des gens qui nous entendent et pour lesquels l'économie est importante, mais ne pas mettre un caniveau, ne pas mettre une bordure, ne pas mettre un tabouret siphon, ni un tuyau, un séparateur d'hydrocarbures, etc., ça se traduit par une première conséquence heureuse, c'est la diminution des coûts d'investissement.
Mais après, il faudra reparler, comme l'avait dit un observateur, Hervé Moelle, que je salue, si on ne se heurte pas à des pans d'activité qui verraient d'un mauvais œil le fait d'échapper à ce chiffre d'affaires potentiel de l'infrastructure grise. Mais on va y revenir plus tard. C'est plutôt une collaboration heureuse que vous visez. Vous avez parlé aussi d'irrigation. Donc l'irrigation, pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est le fait d'apporter de l'eau, puisque cette eau, donc, si on résume, vous ralentissez son infiltration par des sols digne de ce nom, malgré toute la complexité des réseaux sous-jacents. Mais aussi, par moment, il faut apporter de l'eau complémentaire. Et vous avez parlé d'arrosage intelligent, avec des sondes tensiométriques. Alors, on peut le reformuler. En gros, on a des capteurs qui vont permettre de mesurer tout un tas de variables, à la fois la quantité d'eau, le bon équilibre entre l'eau et le sol pour préserver ses qualités physiques, parce qu'un sol qui est trop sec ne peut plus absorber d'eau. Voilà. Le PF4.2 pour les nuls, on va le reformuler et ce n'est pas péjoratif. Et donc, on voit que ça n'est pas seulement creuser des petits fossés, c'est une vision aussi d'innovation. Ça va stimuler la technique.
Bah bien sûr. On va voir le nouveau système urbain qui se dessine. C'est un système qui va être basé sur de nouvelles coopérations. La coopération entre la ville et la nature, on en parle, entre l'urbain et son administration, entre le privé et le public, mais aussi entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Et donc, si on a envie de fonder le fonctionnement de nos villes sur une nouvelle infrastructure, qui est l'infrastructure nature, qui est une infrastructure vivante, elle peut être malade, elle peut mourir. Mmh. On l'a vu dans les Pouilles, avec la maladie qui a touché les oliviers, oui. Xylella, et qui a décimé complètement les oliviers, mais il n'a pas fait que décimer les oliviers, il a décimé la structure sociale de cette région d'Italie, etc. Donc, il va falloir mettre un petit peu de techno, non pas pour bricoler les fonctionnements écosystémiques, mais pour pouvoir contrôler qu'on met les plantes dans des bonnes conditions pour les fournir. Alors, par exemple, l'arrosage intelligent. Aujourd'hui, on pense qu'un arrosage automatique est intelligent si on le couple à la météo. Et si on dit que quand on perd par évaporation 4 mm d'eau, on en rajoute 4 mm, ben finalement, on a entretenu la réserve. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça, pourquoi ? Parce que si on apporte chaque fois l'eau par le dessus, ce qui est, hein, voilà, et ben, les racines, les plantes sont extrêmement mobiles, intelligentes, etc. Et ben, en se rendant compte que la réserve en eau est au-dessus, ils vont mettre un système racinaire en surface. Et donc, dès qu'on va avoir l'interdiction d'arroser par un arrêté préfectoral, on va avoir des dégâts considérables parce qu'il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, nous, ce qu'on pense, plus intelligent de faire, il y a des start-up qui développent des choses très intéressantes là-dessus, c'est qu'on va juger de la quantité d'eau disponible pour les plantes au bon horizon pédologique, c'est-à-dire à la bonne profondeur. Donc, par exemple, 30 cm pour les gazons, 50 pour les arbustes, 80 pour les arbres. Et quand il y a un pic caniculaire que Météo France nous annonce, attention, la semaine prochaine, etc., on vérifie par les capteurs quelle est la réserve en eau utile pour la plante au bon endroit dans le sol, et on fait de l'arrosage prédictif pour régler un peu les quantités et passer sans arroser le pic caniculaire, tout en permettant à la plante de délivrer la prestation qu'on attend d'elle.
C'est formidable, on le voit, cette vision, vous la vivez avec passion, et puis vous êtes entouré d'un certain nombre de spécialistes, de start-up, vous l'avez dit, de scientifiques, on va y revenir. Un petit mot avant de conclure cette première partie sur la biodiversité, les services écologiques pour nos auditeurs. La présence d'eau favorise des milieux écologiques et attire un certain nombre d'espèces qui ne sont pas présentes dans une ville totalement sèche. En tous les cas, on retrouve un cycle plus naturel de l'eau, et notre thème, c'est natures urbaines, comment créer de nouvelles formes de nature dans ces configurations humaines artificielles. On est bien dans le sujet. Et puis également le sol qui est l'abri d'un certain nombre d'êtres vivants. Alors nous allons passer très rapidement à notre reportage. Je voulais simplement dire un mot. Ce ne sera pas un reportage aujourd'hui, ce sera un interlude musical, un interlude joyeux. Nous en avons besoin. Avec Sim qui a chanté « J'aime pas les rhododendrons », un titre dernier cri qui date de 1971. Et cette chanson, avec un peu d'émotion, je vais essayer de la contenir, je la dédie à Raymond Grall, qui nous a quittés récemment, et à son fils Pierre, trop tôt disparu, qui ont été respectivement professeurs et animateurs dans leur première vie. Et pour nos auditeurs, qui seraient interdits devant ce clin d'œil, qui sont plus connus comme spécialistes éminents de la plante dont il est ici question, les rhododendrons, ce sont deux figures majeures pour les métiers du végétal, leader charismatique de l'épopée horticole bretonne, mais aussi, donc en particulier, autour des pépinières de Quérisnel, dans le Finistère, mais aussi fortement investi dans le collectif au National. Alors, comme ils n'étaient pas dénués d'humour et bon vivant, comme ils étaient de formidables passeurs, que je ne remercierai jamais assez pour leur bon tuyau, je leur dédie ce morceau de dérision et de bonne humeur.
J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place. Mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, grammes au pétale comme les azalées. Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines. Dans mon jardin, il y en a plein, et je ne vais plus dans mon jardin. Si seulement il y avait des roses, des myosotis et des violettes ou des pâquerettes. Mais pas des rhododendrons.
Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme ?
J'aime pas les rogros gringrons.
Ah, il s'est trompé.
Parce que les rhododendrons,
ça s'arrange pas.
C'est pas facile à épeler ce vache de hache pour le placer, c'est pas du nous.
Bah. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons,
c'est très sournois, faut s'en méfier. Ça fait de l'ombre à mes fraisiers, à mes azalées, ça veut tout dire.
J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas.
Viennent me chatouiller les narines, ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du
nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. S'il aime pas les rhododendrons, il a qu'à planter des oignons. Faudrait appeler son syndicat pour lui demander de s'occuper de ça. On va pas faire le réveillon à chanter les.
Retour sur le plateau de Guinguette, pardon, de Natures Urbaines. Tout de suite, la deuxième partie.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Bouillon pour parler d'infrastructures vertes. Alors Jean-Marc, créer des infrastructures vertes, c'est très bien lorsque l'on est aux manettes d'un territoire, d'une ville, d'un quartier. Mais est-ce que la ville est toujours le fruit d'une planification publique ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter des grands travaux avec leur lot potentiellement d'expropriation ? Vous nous dites que ces infrastructures grises, obsolètes, sont enterrées profondément. Comment est-ce qu'on conjugue avec l'existant ?
Oui, alors, ce n'est pas nécessairement des grands travaux. Hein. Ça peut être une addition raisonnée d'énormément d'interventions, dont certaines peut-être petites, d'autres moyennes et d'autres plus grandes. Donc, ça... Comment dire, ça passe par un changement de pratique. C'est-à-dire que la ville, c'est un organisme vivant qui perpétuellement se transforme, évolue, etc. Et donc, il y a deux éléments là-dedans à dire. C'est un, à chaque fois qu'on l'agrandit, qu'on la rénove, etc., ben, il y a la meilleure pratique. Hein, donc, à prendre en considération le végétal dans une compréhension plus grande avec cette notion d'infrastructure dont on a parlé. Et donc, saisir chaque opportunité, chaque fois qu'on fait un tram, chaque fois qu'on fait une ZAC, chaque fois qu'on fait une opération immobilière, etc., bah, essayer de constituer un morceau de cette infrastructure verte. Voilà. Mais en même temps aussi, il faut être capable de ne pas conjuguer l'arrivée de l'infrastructure verte au rythme des autres projets. Il faut que ça devienne un projet en soi aussi, planifié. Et là, il y a des méthodes de planification qui existent. Parce qu'on peut se dire que si on doit saisir chaque opportunité de chantier pour la faire, il y a quand même des endroits, des villes qui viennent d'être rénovées et qui ne seront pas rénovées avant 40 ans. Et là, on ne peut pas promettre aux gens qui habitent dans ces coins-là de voir arriver leur infrastructure verte dans 40 ans.
Alors, ces infrastructures vertes, est-ce qu'elles sont uniquement le fruit de petites touches, de travaux et de planification de la puissance publique ?
Ah non, pas du tout, parce que là, de toute façon, il y a un truc qui est assez simple, c'est que quand on regarde la répartition du foncier sur un territoire communal, par exemple, il y a 20% en gros du foncier qui est public, donc qui est piloté directement par la puissance publique, et il y a 80% du foncier qui est privé. Alors, dans ce privé, il y a quoi ? Il y a des simples particuliers qui ont un bout de jardin, etc., un balcon, un toit. Et puis, il y a tous les acteurs économiques. Il y a les acteurs de la construction, les promoteurs immobiliers, enfin, ceux qui peuvent nous écouter, tous les commerçants, etc. Donc, il y a un rapport 20-80. Alors, imaginez que si la transition écologique des villes ne s'opérait que sur le domaine public, imaginons qu'une équipe municipale particulièrement motivée en un mandat arrive à réverser 20% de son système urbain. C'est 20% de 20%, ils ont changé 4% de la ville. Mmh. Donc on sent bien qu'il faut embarquer dans cette histoire les 80% de la ville privée, quelque part. Voilà.
Et... Donc oui. Allez-y.
Oui, et puis c'est assez facile à le faire. Ça passe par de la formation, ça passe par la création d'ambassadeurs qui petit à petit vont porter la chose. Ça passe par un particulier qui a compris et qui déconnecte sa gouttière et envoie l'eau de pluie de son toit dans son jardin pour l'arroser. Mais ça va aussi pour un promoteur immobilier qui va décider de gérer l'intégralité de l'eau, par exemple, à la parcelle, et puis d'en profiter pour planter, etc. etc.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment, chères auditrices et chers auditeurs, un point clé, parce que nous avons à notre antenne des professionnels de la construction, des professionnels de l'immobilier, des professionnels de la ville, publics comme privés, c'est-à-dire que l'action, en fait, pour ces nouvelles infrastructures ou pour la rénovation de cette ville, on dit beaucoup construire la ville sur la ville, elle passe par la mobilisation conjuguée des espaces privés, de tous les espaces qu'on peut appeler les îlots bâtis. Et certains même parlent de commun. Est-ce qu'on est un peu dans cette définition-là ?
Oui, totalement. On est dans une nouvelle coopération entre le public et le privé. Une nouvelle coopération, avec les entreprises, hein, parce que si on regarde la nouvelle résolution produite par le Parlement européen sur les villes vertes en 2022, cette résolution insiste beaucoup sur l'innovation, sur le partenariat public-privé, sur le rôle des entreprises va avoir à jouer dans cette transition écologique des villes. Donc on est vraiment, chacun va pouvoir collaborer. Si j'ai un balcon balcon et que je vais planter, je vais contribuer. Si j'ai une terrasse et que je la verdis, je vais contribuer. Voilà. Mais si j'ai un parking d'un supermarché ou un siège social d'une entreprise et que je désimperméabilise, plante, etc., je contribue aussi.
Alors, ces changements-là, ils sont fondamentaux. Ce n'est pas très compliqué, pour le dire de manière très simple. Vous l'avez dit, il y a de la sensibilisation à faire, de la formation. Cette émission, modestement, essaie d'y contribuer. Il y a aussi le sujet de la gestion qui ne va pas exploser, mais qu'il faut anticiper. Alors, peut-être, parce que c'est très parlant, la théorie, on l'a très, très bien compris, quelques exemples d'infrastructures vertes qui permettent, vous avez déjà donné quelques-uns, qui permettent à chacune et à chacun de se raccrocher et de voir comment est-ce qu'il peut, elle ou il peut agir.
Oui, alors je vais donner des exemples à différentes échelles. Par exemple, on va dire, il y a un exemple en ce moment qui est un sujet un peu de recherche qui est intéressant, c'est la rue Garibaldi à Lyon, une voirie à X voies de circulation, des trémies souterraines pour passer sous les carrefours, etc. Et donc décider de réduire cette rue, de la planter et d'utiliser les trémies, certaines des trémies, comme des réserves d'eau. On envoie toute l'eau de pluie dans la trémie, etc. Et on plante un bosquet urbain, etc. Là-dessus. Et on met des capteurs pour mesurer les différences de température. Et là, c'est assez édifiant. Il y a deux choses qui sont assez édifiantes. C'est qu'il y a une température réellement mesurée qui est de 2,5 degrés de moins. Mais ce qui est intéressant aussi, ça renvoie à la question de tout à l'heure, si on arrose en contrôlant cette quantité d'eau, etc., on s'aperçoit qu'on gagne entre 1 et 1,5 degré de température en moins également. Mais ça, c'est la température mesurée. Et il y a une notion intéressante, c'est la température ressentie, qui est du double. Donc, si on gagne 4 degrés, on a une impression de 8 degrés de moins. Et ça, c'est quand même très, très significatif. Donc, voilà un exemple d'un morceau d'infrastructure verte, etc. Il y a un autre exemple que je cite souvent, mais qui est un peu plus loin à Singapour, d'une infrastructure. C'est un canal bétonné de gestion des trop-pleins de l'eau pluviale qui a été démonté. Et à la place, ça a donné le lit mineur d'un cours d'eau. Et on voit que pendant les épisodes pluvieux, ça remplit complètement sa fonction. Mais on voit surtout que quand il n'y a plus d'épisodes pluvieux, au lieu d'avoir une infrastructure grise, monoservicielle, qui reste comme une tâche, on a un lit mineur avec de la biodiversité, avec des gamins qui jouent, etc. etc. Alors, j'avais envie de dire aussi que ça va se jouer morceau de rue après morceau de rue, parcelle après parcelle, etc. Mais en même temps, il faut le planifier. Donc il faut le planifier, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se doter d'outils qui permettent d'agréger l'ensemble de ces interventions pour voir si on est en train de réellement de constituer une infrastructure capable de délivrer les prestations qu'on attend d'elle. Alors, il y a des exemples. Moi, j'en fais un avec un de mes partenaires à Blois, par exemple, où on est en train d'essayer de définir quel est le schéma de déconnexion de l'ensemble des eaux pluviales de la ville de Blois et de deux autres villes en test et qui permettrait, alors, chaque fois qu'on désimperméabilise, c'est qu'on permet à l'eau de rentrer dans le sol. Et si on permet à l'eau de rentrer dans le sol, c'est une excellente occasion pour planter. Donc on voit bien que gestion de l'eau et plantation et infrastructures vertes vont aller ensemble.
Formidable pour ces exemples et à nouveau cette logique systémique dont on parle beaucoup, mais là qui est incarnée, qui est précise. Merci beaucoup Jean-Marc. Je fais référence à nouveau à l'ouvrage « Fabriquer la ville durable » paru aux éditions du Moniteur, dont nous avons rédigé le chapitre « Nature en ville ». Le fonds de dotation que nous allons aborder, « Intelligence nature », y est cité. Et puis vous avez aussi des exemples comme le parc de Balzac à Angers, qui est aussi une retenue d'eau, des exemples à Rennes, etc., avec cette multifonctionnalité. Alors, Jean-Marc, on a bien dressé le tableau des infrastructures vertes. Maintenant, je sais que vous n'en aimez pas trop ça, mais parlons un peu de vous. Je l'ai brièvement évoqué en introduction. Votre parcours est riche de diversité. En quelques mots, vous êtes diplômé de l'école du paysage de Lullier, en Suisse.
Exact.
Ensuite, vous officiez tout d'abord comme directeur adjoint des espaces verts de la ville de Mulhouse, avant de créer, en 1989, votre bureau d'études. Qu'en 2008, vous transmettez, vous vous rapprochez des GIS pour constituer l'atelier Ville et Paysages qui pendant quelques années, le plus grand bureau d'architecture du paysage jamais créé en France. Alors, cette aventure se termine et une décennie plus tard, vous vous spécialisez dans le conseil, ce que vous faites aujourd'hui, au maître d'ouvrage. Très investi dans la vie collective pour accompagner la structuration de l'offre dont on a parlé, au-delà de la sensibilisation vis-à-vis de la demande, vous constituez avec l'interprofession Valor le fonds de dotation Intelligence Nature. Alors, Est-ce que vous auriez un mot à propos de ce parcours qui a été dressé à gros traits et peut-être avec de l'imprécision? Et puis deuxième question, quel est l'objectif et quels sont les travaux de ce fonds de dotation?
Well, oui, alors la première question, un mot sur ce parcours. De temps en temps, j'ai envie de dire c'est un peu un parcours à la Forrest Gump. C'est-à-dire que c'est un parcours qui est vécu comme une aventure. Comment dire, mais une aventure qui est portée par le sens profond du métier de paysagiste concepteur. Quand on est un paysagiste concepteur, on s'intéresse au quotidien des gens. C'est un métier enthousiasmant. Alors pourquoi un peu une aventure et Forrest Gump? C'est que moi, j'avais pas une trace comme ça. J'avais des opportunités que j'ai réussi à saisir comme ça et qui m'ont amené d'abord de la fonction publique. C'était très intéressant parce que ça m'a permis de découvrir le sens de l'intérêt général. Ça m'a surtout permis de découvrir que quand on travaille pour commencer dans une ville, qu'un projet, son premier projet, et pour un paysagiste concepteur, son premier projet, quelque chose d'important, ben finalement, c'est qu'une pièce d'un puzzle. Et le puzzle est plus important que la pièce. Donc, ça donne le sens de l'intérêt général. Après, bon, les paysages, etc., c'est plutôt le sens de l'entreprise, de la précision, l'engagement, etc., etc. Et puis, un petit passage dans l'entreprise, parce que c'est des partenaires avec lesquels on bosse beaucoup, sans vraiment les connaître quand on est du côté de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'était intéressant.
Entreprise de travaux.
Voilà. Et aujourd'hui, en fait, cette expérience accumulée par ce parcours, et notamment la période où nous étions 120 dans Ville et Paysages, c'était quand même un superbe accélérateur d'expérience. Il me semble qu'aujourd'hui, cette culture, cette expérience, j'ai envie de la mettre au profit des programmes, des politiques, de façon à pouvoir imprégner plus vite le changement dont on a tous besoin.
Et c'est intéressant puisque la boucle est bouclée en quelque sorte, puisque vous avez commencé avec une ville et puis maintenant vous conseillez des acteurs publics et privés après avoir vu un peu tout le monde. Alors, je ne ferai pas la boutade, mais on va la faire quand même. Vous nous avez dit c'est un peu à la Forrest Gump. Je pensais à Lullier et à la tablette de chocolat, mais c'est peut-être pas ça le lien. Je pensais que vous alliez nous dire ça.
Non.
On avait une deuxième question qui était quel est l'objectif d'intelligence nature?
Oui, alors intelligence nature, l'idée, comme son nom l'indique, c'est d'utiliser l'intelligence de la nature. Et je ne sais pas si vous connaissez le programme de recherche Nature for Cities, qui est un gros programme de recherche européen qui s'intéresse aux fonctions écosystémiques. Et on s'est aperçu qu'il y avait 60 typologies de fonctions écosystémiques qui pouvaient être utiles à l'homme et à la ville, et en gros qu'on n'utilisait aucune dans le système urbain du XXe siècle. Donc là, un des gros changements dans l'évolution du système, c'est qu'on commence à se rendre compte de ça et on commence à essayer de fabriquer, de trouver, réponse à cette question. Alors c'est précisément ça le but d'intelligence nature, c'est que si le diagnostic aujourd'hui est partagé, tant par les élus que par la population, etc., ce qui manque, c'est le mode d'emploi. C'est comment quelqu'un qui a compris veut le faire et veut le faire d'une façon non silotée. Vous savez que le problème des solutions techniques, c'est qu'elles isolent. Et là, notre nature étant multiservicielle, il faut vraiment plutôt avoir de la transversalité. Donc la question d'intelligence nature, qui a été cofondée par 5 familles de valeurs, c'est-à-dire les pépiniéristes, les entreprises, les métiers de la jardinerie, etc., la Fédération française du paysage, donc le paysagiste concepteur, c'est comment, dans une approche très désilotée, on imagine les réponses probantes, à donner à tous nos maîtres d'ouvrage, de façon à ce qu'ensemble, on accélère cette transition écologique de nos villes dont on a tous besoin.
Alors, vous venez de citer la Fédération française du paysage. En 2016, vous en étiez le président et vous avez participé à l'élaboration d'une loi. Je prends mon petit papier pour bien la citer. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Je la cite parce qu'elle est assez révélatrice de ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Alors, parmi les 174 articles de ce texte, si je ne m'abuse, on notera les prémices des alternatives à l'artificialisation des sols, notamment avec une obligation de végétalisation des toits de surface commerciale, mais aussi la création du titre de paysagiste concepteur, on ne dit plus architecte paysagiste. Alors, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette loi, et est-ce qu'elle contribue, puisque dans son nom même, elle a à la fois la biodiversité, la nature et les paysages, à réconcilier deux professions qui, pour nos auditeurs, ne font qu'un, mais dans la réalité, se sont opposés pendant longtemps, que sont les écologues et les paysagistes?
Alors, plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que cette loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages suit 30 ans plus tard une première loi qui traitait de la question du paysage. Et la différence est intéressante parce que si la première consacrait le paysage comme un élément patrimonial, Donc on protégeait quelque chose de fragile. Et donc c'était plutôt emprunt sur les règles de la protection du patrimoine, on va dire. C'est les parcs naturels, etc. La nouvelle loi, elle, c'est une loi qui intègre le projet. C'est-à-dire qu'elle intègre l'avenir. Et donc, les deux exemples que vous citiez, c'est comment on fabrique mieux un projet en utilisant le paysage et la nature. Donc ça, c'est une dimension intéressante. Et quand une loi se fabrique en France, on invite les représentants du monde économique qui traitent de cette question. Donc moi, j'ai notamment été invité par Geneviève Gaillard, qui était la rapporteuse de la loi à l'Assemblée, et qui me demande, bon, dernier tour de piste avant de la mettre au vote. Et alors, vous êtes content, etc. Je dis, ouais, madame, des avancées, etc. Mais il manque un élément important, c'est la reconnaissance de la profession des paysagistes. Elle me dit, oui, mais vous ne trouvez pas que tout ce qu'on a pris comme décision, c'est déjà pas mal pour votre profession. Et je lui dis, mais non, bah, regardez les entrées de ville. Elle était l'ancien maire de Niort. Elle dit, vous êtes contente de vos entrées de ville? Et évidemment, elle, pas contente. Et d'ailleurs, personne ne peut être content des entrées de ville. Il dit, c'est curieux, parce qu'il y a une disposition qui existe depuis pas mal de temps, qui est l'amendement Dupont de la loi Barnier, qui oblige à faire une étude paysagère avant d'urbaniser une entrée de ville. Est-ce que vous avez senti une différence? Elle me dit non. Elle me dit, pourquoi? Bah, ce n'est pas les paysagistes qui répondent. C'est une loi qui est faite pour le paysage, mais qui n'est pas faite par les paysagistes, parce que notre profession n'est pas reconnue.
Et parce qu'elle n'a pas de nom.
Elle n'a pas de nom. Et du coup, elle me dit, votre quête est légitime. Et c'est comme ça que j'ai réussi à transformer une bagarre de 30 ans, de 30, président oui. en président, qu'on s'est succédé, et on a réussi à faire de ce métier un métier qu'un titre. Voilà.
Et aujourd'hui, le paysagiste concepteur est reconnu. Et est-ce que le dialogue entre le paysage et la biodiversité et les professionnels qui la composent s'améliore?
Oui.
Je dis ça à dessein, puisque avec différentes initiatives, les Jardins de Galie, on est très moteur pour cette réconciliation-là. Je parle souvent d'Olivier Lemoine, qui est une cheville ouvrière de ce sujet. Est-ce que vous le percevez déjà?
Oui, alors, je sais qu'il y a comment dire, une distance qui peut exister de temps en temps entre les écologistes et les paysagistes, mais en réalité, elle est un petit peu absurde cette distance, parce qu'en fait, la ville est un sujet suffisamment complexe pour ne pas créer de distance, mais plutôt de la proximité. Mmh. Et il est évident que, comment dire, aujourd'hui, concevoir un espace public uniquement avec des codes empruntés à l'histoire des jardins, le nôtre, etc., l'ordonnancement des lignes, etc., c'est complètement idiot. Aujourd'hui, il faut intégrer toutes les composantes d'un projet urbain, les aspects sociaux, sociétaux, la mobilité, etc., et évidemment l'environnement. Et donc, il y a des spécialistes de cette question-là. Nous, on est des généralistes de l'environnement, on n'est surtout pas des spécialistes, et donc on a absolument besoin des écologues. Voilà. Alors, de temps en temps, on peut imaginer que c'est plutôt la préséance qui est donnée aux écologues quand on est dans des espaces extrêmement naturels et on se met au service de l'écologie. Et de temps en temps, c'est l'écologie qui se met au service du projet quand on est plus à l'intérieur des villes. Et tout ça devrait bien s'entendre.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Ça pourrait durer des heures. Et pour conclure, Jean-Marc, je voudrais vous interroger sur les moyens de renverser complètement les logiques établies, notamment les leviers de financement. Mais peut-être que cette question va dépasser la minute qu'il nous reste. Alors, vous avez une carte blanche pour aborder le sujet dont vous avez envie de nous parler pour conclure.
Oui, alors, bon, sur le financement, c'est important parce que c'est vrai que, comme on est encore fortement imprégné par l'idée que le végétal est un accessoire, donc c'est un coût. Et donc, avec toutes les autres obligations que moi, gestionnaire de mon projet, moi, gestionnaire de ma ville, j'ai, est-ce que je vais avoir encore un peu d'argent pour planter, etc., etc. Donc, il faut avoir en tête que quand on utilise la nature comme un élément structurel de son projet, comme une infrastructure, ce n'est jamais un coût, c'est une économie. Ça coûte beaucoup moins cher. Je vais vous donner quelques chiffres. Si vous plantez un mètre carré d'espace vert dans un projet, ça va vous coûter peu ou prou 40 euros le mètre carré. Si vous mettez un mètre carré de minéral, ça va vous coûter entre 100 et 200 euros le mètre carré. D'accord. Quand vous voulez, à grande échelle, mettre en conformité votre réseau d'assainissement dont on a longuement parlé, qui déborde, et que vous le faites par les moyens traditionnels du tout tuyau, ça va vous coûter grosso modo entre 1 000 et 2 000 euros le mètre carré. Si vous changez la peau de la ville pour infiltrer vers des espaces verts en creux, ça va vous coûter 110 10 euros le mètre carré, c'est-à-dire 8 à 9 mois moins cher. Donc on voit bien que... Voilà. Alors après, il y a la question du financement. Quand vous regardez les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour relancer économiquement la France après cet épisode du coronavirus, eh ben, il y a une nouvelle donne qui est en train d'arriver, c'est la relance par la transition écologique. Donc là, il y a des milliards d'euros qui sont mis dans, justement, cette transformation de la ville par la transition écologique. Donc on va trouver là des outils de financement extrêmement importants.
Eh bien, ça, c'est une belle perspective. Nous allons conclure cette émission. Jean-Marc Bouillon, merci de nous avoir accompagnés dans cette balade au cœur d'une ville résiliente, technique, mais aussi heureuse. Et dans la période, il est plus que jamais important de se raccrocher à ce lien. C'était notre petit clin d'œil à la dernière émission. Alors, cette émission-ci a, comme toujours, été préparée avec l'aide et le coaching précieux de Fanny Bourdin, grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, et bien sûr à la technique, Jason et Théo. Merci à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.